Bienvenue à toutes les auditrices et tous les auditeurs d'Aligre FM. Vous êtes dans l'émission Philosophie au présent, en direct, et avec mes très chers camarades, Michele Saporiti, qui nous revient de son Italie natale.
Ah oui, bonjour,
bonjour Michele. Nous avons le plaisir autour de la table d'avoir également Isabelle Raviolo, que les auditrices et auditeurs connaissent bien. Bonjour Isabelle.
Bonjour Nathalie.
Voilà, et on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour cette émission absolument magnifique, comme d'habitude, elle sera splendide.
Absolument.
Avec une autrice, une philosophe qu'on est ravis d'accueillir aujourd'hui, Sophie Norman, pour un livre absolument magnifique, La vocation de philosophe. Très beau titre en plus. Bonjour Sophie Norman.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Ah, c'est avec plaisir. Alors Michele.
Bon, je vais introduire
oui.
Notre invité.
Bien sûr.
Tout, merci d'avoir accepté notre invitation Sophie Norman. Alors vous êtes ancienne élève de l'école normale supérieure, agrégée de philosophie, docteur en philosophie et titulaire d'une habilitation à diriger les recherches. Et vous êtes une grande spécialiste de la philosophie juive et de la philosophie juive contemporaine. Vous enseignez à la 5e section de sciences religieuses de l'école pratique des études PSL. Et chère Nathalie et chère Isabelle, j'ai le grand plaisir aussi de souligner que Sophie Norman a été directrice des programmes au Collège international de philosophie.
Mais oui, évidemment. Avons-nous rappelé ce partenariat qui existe depuis maintenant 8 ans entre le Collège international de philosophie et Aligre FM ? Voilà, qui est l'émission du CIPH. Hein, et Aligre FM nous accueille depuis 8 ans et ça marche plutôt pas mal. Donc Sophie Norman a fait partie du Collège international de philosophie.
C'était avant le partenariat.
Ah, c'était avant le partenariat, oui, j'ai pu voir ça. Sur les médias, oui, tout à fait.
Alors, justement, le titre de son programme était « Philosophie de la religion et éthique de l'altérité » de 2007 à 2013, si je ne me trompe pas. Et vous trouvez tous les détails du programme de Sophie Norman, mais aussi des autres directrices et directeurs du Collège international de philosophie sur le site cIPH.org. Mais aujourd'hui, justement, comme ma camarade Nathalie était en train de dire, on a le plaisir de discuter un livre important de Sophie Norman, le dernier livre, La vocation de philosophe. Et j'ose dire que, comme Philosophie au présent a comme sous-titre Voix du Collège international de philosophie, qui donne aussi un peu la vocation de cette émission, il y a aussi le sous-titre du livre de Sophie Norman, chère Nathalie Isabelle,
oui.
Qui nous donne aussi le sens aussi de sa réflexion, c'est-à-dire puissance de la mise en question. Alors, ce livre a été publié chez Calman Lévy, 2025. Et justement, pour commencer cette discussion, je répète tout brièvement qu'il est divisé en deux parties. Dans la première partie, comme vous avez la gentillesse de préciser dans votre introduction, Sophie Norman, il y a la question de ce qu'est la philosophie est et ce qu'elle fait. Hein, on va aborder tous ces sujets. Et dans la seconde partie, vous portez l'attention sur quatre pratiques philosophiques particulières, Socrate, Descartes, Kant, Nietzsche. Mais justement, pour commencer notre analyse et cette discussion qui est toujours, je dois dire, un plaisir avant tout intellectuel
oui.
Ici. Alors j'aimerais bien lire quelques lignes de votre introduction. On est à page 12-13. Quand la parole philosophique est rattrapée par le dogmatisme, quand on entend des philosophes qui viennent nous rassurer et nous conforter dans nos certitudes plutôt que nous inquiéter, quand on peine à les distinguer des sophistes capables de discourir de tout, quand on donne le nom de philosophe indifféremment à ceux qui en font une pratique vivante et ceux qui l'étudient à la manière dont on scrute un cadavre déposé sur une table de dissection, quand ceux que l'on nomme philosophes s'érangent en école et en chapelle avec leurs dogmes et leurs catéchismes, alors le dogmatisme étant son règne hégémonique. Alors la prêche se referme et la pensée suffoque. Je trouve cette introduction d'une puissance sublime. Absolument, oui, vraiment. Sublime. Alors, je vous demande un peu de réagir. Je vois que là, il y a une sorte de... je ne sais pas si c'est encore à la mode, mais de petits manifestes, disons, de votre effort intellectuel, Sophie Normand.
Tout à fait. Vous avez très bien saisi l'une des dimensions qui, de ce livre, enfin, une des raisons pour lesquelles il était important pour moi de l'écrire. Et je dirais que ça a à voir avec le titre, La vocation de philosophe.
Oui.
Je constate que la philosophie est présente aujourd'hui à peu près partout et à peu près à toutes les sauces. Et justement, il m'a semblé important et que parfois, derrière cette omniprésence, en fait, il y a une absence.
Oui.
Il y a une absence. Et donc, c'est pour ça qu'il m'a semblé important d'essayer de retrouver quelle... comme vous l'avez dit, ce que la philosophie est, mais surtout ce qu'elle fait, l'approcher à partir de ce qu'elle nous fait. Et ce que fait la philosophie, c'est, à mon sens, c'est par la pratique de la mise en question, d'ouvrir des brèches dans la pensée. Et ouvrir des brèches, c'est permettre à la pensée de respirer. C'est-à-dire qu'une pensée totalement compacte et sans brèche est une pensée qui étouffe. Vous avez parlé tout à l'heure, enfin, en me lisant, de suffocation. Mm-hmm. Mais donc, il s'agit vraiment de maintenir la pensée vivante. Or, et c'est ça que j'ai voulu faire entendre dans ce livre, à travers cette vocation de la philosophie. Or, pour moi, l'ironie du sort, mais la tragique ironie du sort, j'ai envie de dire, c'est que, quelque part, la philosophie elle-même est souvent rattrapée par la pensée compacte, par la pensée sans brèche. Et c'est ça, et parce que très souvent, on confond philosophie et idéologie. On confond philosophie et doctrine, philosophie et grille de lecture du monde. Et on attend, du coup, de la philosophie qu'elle nous apporte des réponses. Or, sa vocation, ça n'est pas d'apporter des réponses, mais d'introduire des questions, c'est-à-dire des vides qui font brèche et qui permettent à la pensée de respirer. Et donc voilà, c'est un peu le sens du passage que vous avez mentionné. Et effectivement, c'est le côté un peu manifeste de mon livre. Essayons de réentendre, parce que ça me semble particulièrement important aujourd'hui, cette véritable vocation de la philosophie qui est d'apporter du souffle à la pensée.
Alors, vous avez justement parlé, je reviens sur ce que vous venez de dire, justement, assurer, rassurer, conforter, la philosophie un peu partout. On l'a justement vu avec Isabelle Malika-Temart dans la dernière émission de Philosophie au présent.
Oui, alors je dois dire que j'ai écouté la dernière émission, que j'ai trouvé vraiment remarquable. Merci. Et je me suis dit que j'y ai entendu beaucoup d'échos avec ce que moi-même j'essaye de défendre dans ce livre, puisque effectivement, votre invité parlait aussi de l'importance de la pensée critique, mais pas juste comme posture, comme véritable ébranlement, le fait comme quelque chose, et c'est ça la philosophie, de se laisser ébranler par la question, par la mise en question, parce que finalement, c'est seulement quand on est ébranlé, c'est seulement quand on prend le risque de se rendre bancal qu'on peut avancer. Si on est fermement ancré des deux pieds dans ses certitudes, la pensée est finalement immobile et elle finit par mourir. Pour pouvoir avancer, il faut bien, à un moment donné, prendre le risque de se rendre bancal, de lever un pied, d'avoir un pied dans le vide. Et c'est ce risque-là qui est le beau risque, j'ai envie de dire, de la philosophie.
Oui, on revient un peu aux origines de la philosophie. Mais ce que vous disiez là à l'instant, c'est que finalement, la réponse de la philosophie, c'est le problème, c'est la problématisation, c'est le questionnement. C'est-à-dire, quand vous dites esprit critique ou critique, c'est la question d'un discernement, d'essayer de, finalement, de ne pas se laisser avoir par tous ces savoirs qui nous apportent a priori des réponses sans qu'on pose les questions d'ailleurs. Hein.
Oui, c'est ça aussi, mais encore une fois, c'est pas très souvent, parce que ça aussi on l'entend souvent, oui, esprit critique, etc. Oui. Mais très souvent, ça devient presque une posture.
Oui,
or,
vrai,
ça n'est pas une posture, c'est un engagement. Et c'est important pour moi de préciser que cela engage aussi un rapport au texte philosophique et à l'histoire de la philosophie. Ce que je veux dire, c'est que c'est bien d'avoir un esprit critique, voilà, c'est très bien. Mais ça ne se décrète pas. C'est pas si simple que ça.
Non,
Et très souvent, l'esprit critique s'accompagne d'une posture dogmatique. Pourquoi ? Parce que très souvent, cet esprit critique, il est finalement dirigé contre les autres, alors que cet esprit critique, il devrait d'abord et avant tout s'exercer envers soi-même.
Tout à fait.
Autocritique. Voilà.
Et ça, sauf que, et c'est là qu'on vient à, peut-être à la philosophie, à son histoire, sauf que c'est très difficile d'avoir un esprit critique envers soi-même. C'est très difficile de s'ébranler soi-même. Et très souvent, pour ça, on a besoin d'une médiation. On a besoin de passer par la médiation de l'autre. Et quelque part, la fonction, il me semble, des textes philosophiques, c'est celle-là, de nous permettre de sortir de nous-mêmes pour mieux revenir à nous-mêmes avec cet esprit critique, pour provoquer cet ébranlement qu'on ne pourrait pas provoquer à soi-même. Et si je peux juste ajouter quelque chose là-dessus, c'est que ça engage un rapport à la philosophie, à son histoire, au texte philosophique. Et on en revient à ce que disait Michele tout à l'heure. Très souvent, on va lire les textes des philosophes pour y chercher des réponses, pour y chercher des savoirs, pour y chercher des connaissances ou pour chercher à voir si on est d'accord ou à se conforter dans les certitudes. Mais en réalité, la fonction philosophique d'un texte philosophique, c'est tout l'inverse. C'est d'aller lire un texte pour essayer de comprendre ce qu'il vient ébranler en moi. Quelle certitude ce texte vient ébranler en moi ? Il ne s'agit pas juste de comprendre ce que tel ou tel philosophe dit. Ça, c'est très bien. Mais on reste encore au seuil quand on a compris ce que tel ou tel philosophe dit. Il s'agit encore moins de savoir si on est d'accord ou pas d'accord avec lui. Il s'agit de savoir en quoi ce qu'il dit vient mettre en question ce que je considérais comme certain.
Oui, mais alors là, ce que vous tenez comme discours, c'est évidemment, et là je reprends les termes de Michele, c'est un manifeste contre les académismes qui finalement dévoient la démarche philosophique.
Tout à fait. Alors, qui ont leur fonction, mais leur fonction propre. En fait, une des fonctions de la philosophie, et ça c'est peut-être qu'on va parler tout à l'heure de Kant, mais Kant est peut-être le plus grand philosophe pour ça, une des fonctions de la philosophie, c'est de distinguer les ordres et de mettre les choses à leur juste place. Les académiciens, enfin la philosophie académique, enfin disons la manière dont on fait de la philosophie à l'université, elle a sa place, elle a sa fonction. C'est pas une question. L'université, c'est un lieu de production et de transmission des savoirs. Et c'est très bien qu'elle le reste.
Oui.
Ça, il ne s'agit pas de le mettre en question. Mais la pratique de la philosophie n'est pas une production et une transmission de savoir. Et donc, la pratique vivante de la philosophie, à mon sens, ne peut pas se faire à l'université. À l'université, on fait autre chose, on fait de la science. Et c'est très important.
Oui, tout à fait.
Mais il y a un danger en faisant de la science, ce que vous exprimez dans votre livre.
Oui, mais alors justement, le danger, il n'est pas dans le fait de faire de la science, il est dans le fait de confondre les ordres. Je vais vous donner je vais faire une comparaison qui peut-être sera plus parlante. Pour moi, le problème n'est pas qu'on étudie la philosophie à l'université. Oui. Le problème, c'est qu'on appelle philosophe ce qui se fait à l'université. Et pour faire une comparaison, il y a aussi à l'université des départements de littérature, par exemple. Mais il y a une différence de nature entre une étude, par exemple, sur la poésie de Baudelaire et de Mallarmé. Ça n'est pas la même chose qu'un poème. Parce qu'un poème, c'est une production vivante de poésie. Alors qu'une étude universitaire, c'est la production d'un savoir, d'une science, sur une pratique vivante. Mais c'est pas il faut la distinguer de la pratique vivante elle-même. Or, et je pense que tout le monde fait très bien la distinction entre un poète et un universitaire d'un département de littérature.
Oui.
Voilà.
Qui va normalement.
Et entre un poème et une étude universitaire sur Baudelaire ou sur Mallarmé. Là, tout le monde fait la différence. Or, quand on arrive sur le terrain de la philosophie, là, c'est la confusion qui règne. Puisqu'on donne le nom de philosophe, c'est un peu le sens du passage que vous avez tout à l'heure, indifféremment aux uns, à ceux qui produit et qui ont une pratique vivante de la philosophie, et aux autres, à ceux qui l'étudient à l'université. Et pour moi, c'est cette confusion-là qui est très grave, parce que d'une certaine manière, elle signe l'arrêt de mort de la philosophie comme pratique vivante. C'est-à-dire que pour reprendre la comparaison, si en termes de poésie, il ne restait plus que les études universitaires, on pourrait à bon droit considérer que la poésie est morte. Ben voilà, c'est le danger qui, à mon sens, guette la philosophie aujourd'hui.
Et sur ce point, je signale justement le livre de Sophie Normand, page 102, 103, 104, pour aller en profondeur sur ce point. J'ai mes limites à une question et après je passe la parole à Isabelle. Je crois qu'il a une question à poser. Mais alors, votre livre a comme titre « La vocation de philosophe ». Mais pourquoi pas la vocation de la philosophie ?
Parce que j'ai... Alors, plusieurs...
Parce que je trouve que dans votre propos, il y a quelque chose... La brèche est là. Hein.
Oui. En fait, j'aurais pu... En réalité, j'aurais pu l'intituler « La vocation de la philosophie ». Mais j'ai préféré la vocation de philosophe pour plusieurs raisons. D'abord parce que, justement, la philosophie, ce n'est pas quelque chose en l'air. Elle est toujours incarnée dans une pratique vivante. On va peut-être parler de Socrate, mais le père fondateur de la philosophie, c'est Socrate qui n'a jamais rien écrit, qui ne nous lègue que sa vie. Je veux dire, c'est un philosophe. C'est toujours un philosophe avec son nom et son prénom, incarné. Donc il y a cette dimension-là. Mais il y a aussi le fait que dans ce titre, La vocation de philosophe, j'avais en tête deux conférences de Max Weber qui s'appellent Le métier et la vocation de savant et Le métier et la vocation de politique. Donc où là aussi, c'était des noms, ils désignaient le savant et le politique et pas la science et la politique. Oui. Et donc, j'ai voulu ajouter à ce diptyque weberien un troisième volet, donc la vocation de philosophe, qui n'est ni du côté de la science comme le savant, ni du côté de l'action, on va dire, comme le politique, mais qui est encore autre chose. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de philosophe et pas la vocation de la philosophie.
Merci. Merci, Sophie. Je vous écoute avec attention et je mets en lumière dans votre discours... la manière dont vous avez rebondi sur le passage lu par Michele, une philosophie qui suffoque, qui n'existe plus, une langue morte, on va dire.
Qui est, une lettre morte, c'est-à-dire les textes philosophiques peuvent devenir lettres mortes.
Peuvent devenir lettres mortes. Et la question qui m'est venue, c'est si la philosophie a pour vocation d'être habitée par le philosophe. Ou la philosophe. Et celui qui est habité par ce souffle vivant de la philosophie se laisse déplacer et ne s'installe ni dans un pyrrhonisme, ni dans un dogmatisme, quel est le chemin ? Où va-t-il ? Est-ce que c'est un déplacement continuel ? Et dans ce sens, on peut se demander pour aller où ? Et c'est la question qui est en filigrane de votre travail quand on le lit in extenso, puisque c'est le rapport à la vérité dont il est question dans votre livre. Mais comme la vérité nous échappe et qu'elle constitue précisément la ligne d'horizon et en même temps la brèche, on peut se demander dans quelle mesure... La vocation du philosophe n'est pas une aventure au sens de Giorgio Agamben, justement.
Vous avez parfaitement raison, c'est une excellente question. Je vais essayer d'y répondre de la manière la plus synthétique possible, mais effectivement, c'est quelque chose qui court en filigrane de tout le livre. Et pour déployer une vraie réponse à la question que vous posez, je pense que je suis pas sûre de pouvoir le faire tout de suite, mais vous me reprendrez s'il y a des choses qui sur lesquelles vous voulez qu'on revienne. Mais effectivement, vous avez raison. Comment adopter une position qui à la fois maintient la pensée en mouvement, mais qui en même temps n'est ni du scepticisme, vous avez parlé de pyrrhonisme, ni du dogmatisme. la réponse la, enfin, que j'ai envie de faire, mais qui est trop rapide à cette question, c'est justement, il y a un troisième mode d'exercice de rationalité qui est la raison critique. C'est précisément, et j'en reviens à Kant, le geste critique qui consiste à maintenir la pensée dans l'étroite ligne de crête qui entre le dogmatisme et le scepticisme. Et donc, cet exercice critique de la rationalité que Kant a magnifiquement théorisé, on va dire, c'est quelque chose qui est à réactiver en permanence. Donc, voilà, elle est là, la troisième voie, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur cet esprit critique qu'il faut maintenir. Et ça rejoint la question de la vérité que vous posiez. C'est-à-dire que moi, j'essaye de réfléchir à, et c'est d'où le sous-titre de mon livre, vous l'avez rappelé, c'est la puissance de la mise en question. Oui. J'essaye de réfléchir à quelle est la puissance propre de ce qui constitue une brèche. Quelle est la puissance propre de l'absence? Donc, la puissance de l'absence, c'est la puissance de la question. Une question ne dit rien, une question n'a pas la puissance d'un slogan. Et pourtant, une question, c'est un vide introduit dans la pensée, dans le discours. Et pourtant, la question a une certaine puissance. Alors, quelle est cette puissance? Quel est ce vide moteur de la question? Et c'est le même type de puissance à propos de la vérité. C'est-à-dire que vous avez raison, la philosophie est prise, et ça depuis son origine, depuis Socrate, dans une sorte de paradoxe qui consiste à chercher la vérité tout en maintenant l'idée qu'on ne peut pas l'atteindre in fine. Et donc, mais en même temps, si on affirme que la vérité est inatteignable, c'est-à-dire si on passe de la recherche à l'affirmation dogmatique, alors, si la vérité est inatteignable, on perd la ligne de crête de la raison critique et on tombe justement dans une forme de scepticisme dogmatique, puisqu'il affirme qu'il n'y a pas de vérité. Donc, il faut toujours maintenir l'horizon tout en, paradoxalement, le maintenant comme inatteignable. Et donc, dans la recherche philosophique, la vérité, elle est présente comme question, c'est-à-dire que, et c'est quelque chose de très particulier, elle est présente sur le mode de l'absence. Mais quelque chose qui est... C'est pas la même chose que d'être absente. Elle est présente sur le mode de l'absence. C'est-à-dire qu'elle fait question. Et c'est ça, la réponse peut-être un peu rapide. Je ne sais pas si c'est quelque chose...
C'est une réponse qui rejoint deux pages. La page 35 et la page 49 concernant Socrate et Platon. De fait, vous mettez bien en lumière que c'est non pas une absence... mais un mode d'absence, et cette modalité
un mode de présence.
Oui, un mode de présence,
sur le mode de l'absence.
Donc, une présence d'absence. Et de fait, si c'est une présence d'absence, elle donne une ligne d'horizon. Une ligne d'horizon qui n'est pas un but, qui ne met pas le philosophe devant un but à atteindre, mais devant... une tenue du corps et de l'âme, je dirais. Et cette mise en avant, je la lis dans votre livre comme le désir. Vous en parlez beaucoup, vous parlez du manque et vous parlez du banquet. Et vous citez, en parlant du banquet, Pierre Hadot, que j'aime beaucoup. Pierre Hadot, exercice spirituel, les philosophies antiques, mais on peut aussi citer Éloge de la philosophie antique, son discours inaugural au Collège de France. Et mettez en lumière, à la page 49, la mise en question qui est le désir qui enfante. Elle est le souffle vivant, dites-vous, le moteur de l'histoire de la philosophie, qui s'exprime silencieusement à travers tous ses fruits. L'adverbe, je l'ai relevé. Et chaque atome de silence est la chance d'un fruit mûr, je cite Paul Valéry, vous l'avez retrouvé, je me dis que si le philosophe, dans cette vie philosophique qu'il habite, cette vie de l'esprit, sait qu'il n'erre pas, ni naît sur une voie de pèlerinage, c'est bien les fruits qu'il porte. Et donc, c'est un éros philosophique que vous nous décrivez ici jusqu'à Nietzsche. Et cette érotique philosophique, elle est complètement féconde si on la vit corps et âme.
Tout à fait. Tout à fait. Vous avez très, vous avez parfaitement saisi le l'intention de ces pages et c'est très lié avec effectivement la question du désir. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est que le désir? Bah, c'est précisément la présence sur le mode de l'absence. C'est-à-dire que on ne désire pas ce qu'on a. Ce qui est, puisque c'est là, voilà, c'est dans une présence pleine. On ne désire pas non plus ce dont on n'a absolument aucune idée, qui est totalement absent. On ne désire que ce qui est présent, mais sur le mode de l'absence.
Ouais.
Si je désire, je ne peux pas désirer manger du chocolat si je n'ai jamais entendu parler du chocolat, mais en même temps, si j'ai devant moi si j'ai une tablette de chocolat, ça ne sera pas non plus un désir. Je ne désire manger du chocolat que si le chocolat est pour moi présent sur le mode de l'absence. C'est la même chose pour la vérité dans la philosophie, et c'est le principe même du désir qui est le moteur de la vie.
Oui.
De la vie, d'où... de la vie de la pensée. Oui. Et vous avez raison quand vous parlez d'une érotique.
C'est une érotique, d'où le concept central de votre livre, il me semble, qui est celui de trace.
Mm-hmm. Parce que c'est ça une trace.
Oui.
Une trace, c'est encore une forme de présence sur le mode de l'absence.
Oui.
Quand on voit la trace, par exemple, des pas d'un animal dans la forêt, l'animal lui-même n'est pas là. Il n'y a que la trace, mais la trace, c'est l'absence. La trace rend présente une absence.
L'empreinte
ou la trace.
Ou la trace. Et je me souviens d'une parole de Plotin dans les Énéades, traduit par Pirado, justement. Hein, l'être n'est que la trace de l'un. Et cette trace, au sens d'une présence qui s'indique dans son absence, dans votre ouvrage, c'est cette trace qui... Et aussi l'expression de l'amour vivant.
Mmh. Alors, on est bien toujours sur Aligre FM et dans Philosophie au présent, et on va écouter une petite musique de Leonard Cohen, Anthem, qui a été choisie par Sophie Norman, et on revient après pour reprendre notre discussion.
The birds, they sing at the break of day. Start again, I heard them say. Don't dwell on what has passed away or what is yet to be. Yeah, the war, they will be fought again. The holy dove, she will be cut again. Bought and sold and bought again. The dove is never free. That still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in. For signs, the signs were sent. The birth betrayed, the marriage spent. Yeah, the widowhood of every government signs for all to see. I can't run no more with that lawless crowd, while the killers in high places say their prayers out loud. But they've summoned up a thundercloud. They're gonna hear from me. Ring the bell that still could ring. That's how the light gets in. You can add up the parts, you won't have the sum. You can strike up the march, there is no drum. Every heart to love will come, but like a refugee.
Voilà, vous êtes de retour sur l'antenne d'Aligre FM en direct, figurez-vous. Voilà, on prend ce risque, hein, le risque de la parole, voilà, qui n'enregistre pas. Hein, et vous êtes dans Philosophie au présent, hein, une émission du Collège international de philosophie avec Aligre FM. Et ça dure depuis fort longtemps, 8 ans, c'est magnifique, hein, Michele Saporiti,
oui,
Isabelle Raviolo,
Nathalie Perrin.
Voilà,
et aujourd'hui avec Sophie
Norman pour un livre absolument magnifique, la vocation de philosophe. Je vous explique pas hors antenne ce qu'on se disait sur ce livre et tout ce que ça génère comme, absolument comme question. Alors Sophie Norman, vous avez choisi cet extrait de Leonard Cohen, alors pourquoi?
Bah, déjà évidemment pour rendre hommage à Leonard Cohen qui est un des plus grands génies à mon sens de nos temps, mais je l'ai choisi aussi parce que voilà, vous m'aviez demandé de choisir quelque chose qui était en écho avec mon propre travail. Oui. Et dans ce morceau, il y a deux phrases que je vais redire, qui sont « There is a crack in everything, that's how the light gets in. » Il y a une fêlure en toute chose. C'est ainsi que la lumière entre.
Ouais.
Et bah, il n'y avait pas plus beau pour exprimer ce que je cherche à dire dans ce livre.
Ouais, ça fait penser à Francis Scott Fitzgerald, The Crack Up, hein, la fêlure. Oui. Alors Michele, une question, on rebondit, on a plein de choses à dire.
Oui, alors, plein de choses à dire, absolument. Alors peut-être je me rejoins justement à la question que Isabelle a posée avant à propos de la vérité. Et ma question concerne votre parcours, Sophie Normand, aussi en tant que spécialiste de philosophie juive contemporaine. Je trouve qu'il y a une continuité en ce sens-là. Donc, est-ce qu'il y a, mais c'est la réponse, je crois, c'est oui, avec cette thèse de la, disons, de la absence, on peut dire de la vérité, de la modalité de l'absence, oui, par rapport aussi à vos études des philosophies juives, et comment cette enquête autour d'une vérité qui est présente dans la modalité de l'absence vous a conduit à aborder ces quatre figures majeures, on peut dire Socrate, c'est une énorme question, mais justement pour porter l'attention sur la seconde partie du livre, Socrate, Descartes, Kant et Nietzsche.
Alors, je vais peut-être répondre d'abord à votre première question.
Bien
sur
sûr.
La continuité avec mes travaux sur la philosophie juive. Pour le dire très rapidement, il y a deux continuités. La première, c'est que ce que je découvre dans la tradition de pensée juive, c'est précisément aussi cette question d'une vérité présente sur le mode de l'absence. Comme vous le savez peut-être, il y a un grand interdit dans la tradition juive, et à mon sens, c'est le plus important, c'est ça que la tradition juive apporte au monde, on va dire, c'est le refus de l'idolâtrie. Mmh. Mmh. Et le refus de l'idolâtrie, c'est exactement, ça veut dire le refus d'une vérité présente sur le mode de la présence. Une vérité présente sur le mode de la présence, c'est une idole. Mmh. Et tout le travail de la tradition juive et de la pensée juive, c'est justement de refuser cette présence pleine et idolâtre de la vérité. Mmh. Donc ça, c'est un premier point. C'est pour ça d'ailleurs que, quelque part, enfin, qu'à la fin de mon livre, je parle de la vocation de philosophe comme d'une vocation prophétique. Oui. Parce que c'est ça, il me semble que c'est ça la prophétie qu'on a souvent tendance à confondre avec l'art divinatoire, mais oui, le prophète, ça n'est pas du tout celui qui prévoit ou qui prédit l'avenir. Le prophète, c'est celui qui ouvre une brèche au cœur du présent.
Oui. Et justement, c'est ce que fait aussi la philosophie. Vous citez Maurice Blanchot. Hein.
Oui.
Justement, dans votre postface.
Tout à fait.
J'ai rappelé aux auditrices, aux auditeurs, que Sophie Normand est une grande spécialiste de la pensée de Lévinas.
Oui, merci de le rappeler.
Non, mais c'est important. C'est justement important aussi pour voir comment aussi les expériences qu'on a la possibilité de transmettre à travers nos ouvrages donnent aussi, comment dire, une continuité à certaines intuitions.
Tout à fait. Hein, qui ont
la possibilité de partager avec le public, aussi avec les collègues.
Ouais.
Pardon, mais c'était important de souligner ça.
Oui, ouais, tout et à puis il y a un deuxième aspect aussi dans cette continuité qui est que, précisément, les philosophes juifs contemporains sur lesquels je travaille ont recours à la tradition juive et pour, d'une certaine manière, mettre en question la tradition philosophique. Et c'est ça qui est... On retrouve cette question de la mise en question, cette idée que la tradition philosophique, elle est, elle aussi, un peu dominée par certains paradigmes, et le recours aux sources juives permet de décentrer le regard, et non pas de tomber dans un autre dogmatisme, mais de, à partir de ce décentrement du regard, de pouvoir venir mettre en question les paradigmes dominants de la philosophie d'une époque. Vous parliez tout à l'heure de Lévinas, bah, par exemple, dans la philosophie moderne et contemporaine, le paradigme de la subjectivité, on part du sujet, que ce soit le cogito cartésien, le je pense kantien, l'ego cogito husserlien, bon bref, il y a quelque chose, ce sont beaucoup de philosophies de la subjectivité. Bah, Lévinas, lui, va aller chercher dans les sources juives et réinterroger cette question de la subjectivité en donnant une place centrale à la question de l'altérité. Donc voilà un exemple de décentrement du regard qui permet de venir réinterroger des paradigmes philosophiques. Vous me posiez ensuite la question des quatre philosophes.
Ce sont des choix incroyables.
Surtout Nietzsche, ce sont des choix incroyables. Mais quand j'ai trouvé Nietzsche, et justement la façon avec laquelle vous analysez Nietzsche, aussi dans la révélation.
Ah bon pour moi, Nietzsche, c'est un grand briseur d'idoles.
C'est clair,
on est tous bien d'accord, parle tous les trois. Mais à un certain moment, vous dites, je vous cite page de 283, la mise en question suppose la foi en une vérité présente sous le mode de l'absence. Mais pour mettre en question la valeur de la vérité, n'y faut-il pas encore y croire ?
Oui, c'est très beau.
Voilà, est-ce que Nietzsche croyait dans cette question ?
Ah bah, il le dit.
Oui.
Justement.
Est-ce qu'il était sérieux en
justement,
disant
ça ? Mais Nietzsche, d'une certaine manière, alors, il y a beaucoup de non, Nietzsche, d'une certaine manière, est celui qui pousse dans ses ultimes retranchements, on va dire, la mise en question philosophique, puisqu'il vient mettre en question cette mise en question elle-même.
Oui.
C'est lui qui débusque, c'est lui qui dit, sous cette mise en question, il y a ce qu'il appelle ce besoin de vérité, cette croyance dans la valeur de la vérité, et ça n'a jamais été mis en question, et moi, je vais le mettre en question. Et donc, son geste est encore un geste éminemment philosophique. Il remet en question justement toute l'histoire de la philosophie.
La métaphysique classique.
Oui, mais la c'est encore un geste. Science, oui. C'est justement encore un geste philosophique. C'est ça qui m'a intéressée.
Oui, la question du geste, c'est tout à fait au centre de votre travail.
Alors, la question du geste, et ça me permet du coup de revenir sur la question que vous me posiez. Pourquoi ces quatre-là ? Parce que finalement, on aurait pu... Si la philosophie, c'est la pratique de la mise en question. On aurait pu en choisir d'autres. Pourquoi ces quatre-là ? Pour une raison très simple. En général, la mise en question philosophique est une dimension souterraine de l'histoire de la philosophie. La plupart du temps, les philosophes mettent en question sans le dire. En général, quand vous ouvrez des livres de philosophie, vous ne voyez pas beaucoup de points d'interrogation, vous voyez beaucoup de points, voire de CQFD, d'affirmation.
D'affirmation,
donc,
oui, tout à fait.
Donc, le versant manifeste de l'histoire de la philosophie, c'est son versant, je dirais, doctrinal. Et moi, ce que j'ai voulu montrer, c'est que il y a un autre versant, mais qui est souterrain, qui est le versant de la mise en question. Est-ce que j'ai le temps de prendre un exemple
très simple ? Mais bien sûr,
Pour moi, l'exemple un peu paradigmatique, c'est l'exemple de Spinoza. Oui. Spinoza rédige l'éthique sous forme démonstrative, avec des axiomes, des démonstrations, qui se terminent par un CQFD, etc. Spinoza affirme. Il dit des choses de manière assertive. Mais ce faisant, que fait-il ? Que fait Spinoza ? Ce qu'il fait, et c'est là son geste, c'est qu'il vient déboulonner, pulvériser tous nos préjugés. Il vient très puissamment nous mettre en question. Mais il le fait sans le dire. Et donc, si on en reste à l'aspect manifeste, on a la doctrine spinoziste, mais on ne peut pas dégager cette puissance de la mise en question. Alors moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est cette puissance de la mise en question. La plupart du temps, elle est souterraine. Mais il arrive parfois que ce versant souterrain remonte à la surface. C'est-à-dire qu'à de très rares moments, les philosophes mettent en question en le disant. Ils disent ce qu'ils font. Ils reviennent sur leur propre pratique de la mise en question. Ils la disent et ils la nomment. Ces moments, ils sont très rares. J'en ai repéré quatre et c'est pour ça
que vous avez choisi.
Ce sont ces quatre-là.
D'accord.
Socrate, qui revient sur sa pratique de la mise en question et qui la nomme, c'est la maïeutique. Descartes avec le doute, Kant avec la critique et Nietzsche avec la généalogie.
Le généalogiste Nietzsche. Voilà. Justement, quand vous avez cité Deleuze, n'est-ce pas ?
Oui, tout à fait. Okay.
Alors Isabelle Raviolo, une dernière question peut-être, Isabelle ? Ou une interrogation ou une remarque ?
Ma dernière question, c'est une question qui portera sur la mort. Vous dites à la fin de votre première partie que la figure inaugurale qu'est Socrate inaugure la geste philosophique par la mort. Est-ce que être philosophe aujourd'hui, c'est possible ? Dans notre société.
C'est justement la question que pose Socrate. C'est-à-dire que ce que je dis pour être tout à fait complet, c'est qu'il inaugure la philosophie par sa vie, mais aussi par sa mort. Pas uniquement par sa mort. Ceci dit, si Socrate n'était pas mort dans les conditions dans lesquelles il est mort, je ne suis pas sûre que son geste aurait eu la même postérité. Il me semble que la postérité du geste socratique, que pour comprendre et mesurer la portée et la puissance du geste socratique, il faut aller jusqu'à sa mort. D'abord, et c'est ce que j'essaye de montrer dans le livre, jusque dans sa condamnation à mort, c'est encore Socrate qui tire les ficelles. Il oblige presque le tribunal populaire à le condamner à mort. C'est ça, on parle de l'ironie socratique, mais alors là, la condamnation à mort de Socrate, c'est vraiment peut-être l'ironie suprême, la pratique suprême de cette ironie. Et ce qu'il faut bien mesurer, parce qu'on a l'habitude de voir des intellectuels ou des grands penseurs qui sont régulièrement condamnés à mort ou auxquels on demande de se taire par la force, qu'on fait taire de force. Mais Socrate, c'est un cas différent. Socrate est condamné à mort par ses concitoyens, par ceux qu'il fréquente tous les jours dans les rues d'Athènes, dans un régime où, dans lequel, et ça, tous les historiens s'accordent sur ça, il y avait une liberté de pensée et de parole comme on en a très peu connu dans l'histoire de l'humanité. Et c'est ce régime-là qui condamne Socrate à mort. Et effectivement, ça pose la question de savoir est-ce que le philosophe a sa place parmi les hommes ? Parce que finalement, sa fonction, et on reboucle la boucle à ce qu'on disait au départ, sa fonction, c'est essentiellement une fonction subversive. Le philosophe n'est pas là pour contribuer au rouage de la société, il est plutôt le grain de sable dans les engrenages. Donc, est-ce qu'il a vraiment sa place? Et d'une certaine manière, quand dans la postérité de Socrate, Platon dresse le modèle de la cité idéale dans la République,
la Callipolis,
c'est le philosophe roi.
Tout à fait.
Donc, d'une certaine manière, il n'est toujours pas parmi les hommes.
Tout à fait.
Donc, à quel moment, comment faire pour que le philosophe ait sa place parmi les hommes? Je crois que c'est une vraie question.
Peut-être c'est comment faire, c'est faire. Encore une fois, on revient à votre propos initial. C'est la mort, c'est un fait. La condamnation, c'est un fait. C'est pas seulement des mots.
Voilà, il n'y a pas véritablement sa place. Il est le grain de sable dans les engrenages, mais c'est ce grain de sable qui maintient aussi la vie de la cité. Socrate lui-même se compare à un temps, vous savez, à une tique qui vient réveiller la cité endormie. Voilà, c'est ça la vocation. La vocation du philosophe.
Et donc, Sophie, me posant cette question au fil de ma lecture, je ne cessais de penser au Phédon. Et vous le savez, dans le Phédon, philosopher, c'est apprendre à mourir. Montaigne reprendra ce passage du Phédon pour le commenter dans ses essais. Mais c'est davantage apprendre à vivre, toujours sur le mode du mourir. Et cela rejoint ce que vous dites, et cela rejoint l'érotique philosophique, puisqu'Eros ne cesse de mourir et de revivre de sa mort. Il s'épuise, puis il revient. Et dans ce va-et-vient, dans ce mouvement, on retrouve le souffle. Et puis on retrouve aussi cette tradition juive de l'Ancien Testament. Et moi, je n'ai cessé d'y voir la pauvreté de Job. La pauvreté de Job qui s'adresse à Dieu avec cette question « Pourquoi ?»
Alors, oui, d'abord merci pour votre lecture, ça ouvre des perspectives de nouvelles perspectives. Mais je voudrais peut-être revenir sur ce que vous disiez sur cette question de la vie et la mort, parce que il y a autre chose pour moi qui fait écho à la tradition juive et ça rejoint ce dont on parlait tout à l'heure sur l'université et la transmission des savoirs.
Oui.
Je pense au philosophe Walter Benjamin qui distingue le temps continu de l'histoire dans lequel transmet le savoir et le temps discontinu de la tradition. Et il a fait référence à la tradition juive et il dit que la tradition, à chaque génération, doit sauter par-dessus l'abîme de la mort. C'est-à-dire qu'il y a une discontinuité dans la tradition. Il n'y a pas cette idée qu'on va transmettre de manière continue un savoir communicable. Il y a plutôt l'idée de cette discontinuité, donc encore une fois, d'une brèche dans le temps, d'une brèche dans la pensée, d'une brèche qui va falloir, qui va en même temps être la condition de possibilité d'une véritable transmission. Et il me semble que ça fait écho à ce que vous disiez à l'instant sur, justement, apprendre à vivre sur le mode du mourir et transmettre sur ce mode-là.
Merci Sophie Norman. Malheureusement, le temps presse et on va, avant de revenir vers vous et le petit questionnaire parationnel, on va écouter la chère flânosophie de Michele Saporiti. Merci. Petit jingle.
Chères auditrices, chers auditeurs de Radio Aligre FM, je vous souhaite la bienvenue dans notre rubrique Flânosophie. Comme vous le savez, la flânosophie est la quasi-science du divertissement intellectuel, un geste philosophico-poétique qui nous porte à explorer des objets, des espaces, des temporalités. Prenez alors votre temps, gardez votre espace et retrouvons aujourd'hui la pomme de terre. Je ne connais pas votre opinion à propos de selfie et de l'usage intensif de la caméra. Personnellement, je persiste dans l'idée que l'art du portrait ou de l'autoportrait est un art très noble, assez délicat, subtilement conceptuel. Faire un portrait de quelqu'un, y compris de soi-même, c'est sublimer l'apparence sans jamais quitter le concret. Mais l'objet flânosophique d'aujourd'hui n'est pas un portrait quelconque. Il s'agit d'explorer une typologie particulière. particulière de portrait, le portrait philosophique. Précisons tout d'abord qu'un portrait philosophique n'est pas nécessairement un portrait d'une ou d'un philosophe. Ce n'est pas le sujet, c'est l'objet particulier qu'on souhaite explorer. Et alors, que souhaitons-nous représenter dans un portrait philosophique ? Voici une question bien difficile. Et pour y répondre, essayons de composer ensemble un portrait radiophonique. Ce serait assez peu original d'esquisser un portrait philosophique de Platon ou de Derrida. En revanche, essayons de rendre philosophique la représentation d'un objet ordinaire, la pomme de terre. Tout d'abord, il faut noter que la pomme de terre ne représente que le sujet de ce portrait. C'est à nous de choisir l'objet à représenter. Et ça va sans dire qu'une description ne suffit pas. Une pomme de terre se présente dans une multiplicité de formes. Elle a une peau, des protubérances. Elle peut être douce, jaune, violet, orange. Explorons en revanche une voie alternative selon trois mots-clés. Étonnement, profondeur, luminosité. Voici ma proposition. Il n'y a rien de banal dans une pomme de terre. Ce qui étonne, c'est avant tout sa capacité à pousser dans l'intimité de la terre sans avoir jamais vu la lumière du jour. Pour une pomme de terre, la possibilité de rencontrer la lumière est le résultat d'un effort humain, d'une volonté humaine. C'est dans l'intimité du sol qu'une pomme de terre apprend à mûrir avant de se révéler. Et c'est sous la lumière du jour qu'elle se débarrasse de la terre pour devenir de la nourriture pour le corps, mais également pour l'esprit. On voit bien, cher Flanosov, ce portrait regorge de références philosophiques. Il a fait d'un sujet ordinaire l'objet d'un effort qui transcende les apparences. Peut-être toute philosophie est un petit portrait philosophique et tout Flanosov est un portraitiste ou un chercheur de ce type particulier de tubercules qui sont les idées.
Super, merci pour ce portrait patate. Ça me fait penser aux couleurs patates de Van Gogh dans ses premiers tableaux.
Peut-être aussi Agnès Varda.
Tout à fait. Bon, alors on approche bientôt de la fin de cette émission. Et comme on est hyper professionnel et qu'on a respecté le timing, c'est donc l'heure désormais du petit questionnaire pas trop rationnel.
Ah oui, bien sûr.
Alors on pose combien de questions ?
Au moins 5.
Au moins 5, voilà. Pour Sophie Norman, dont je rappelle qu'elle était notre invitée aujourd'hui pour son livre absolument magnifique, La vocation de philosophe, puissance de la mise en question. Alors Sophie Norman, des petites réponses sans réfléchir. Vous n'avez pas le droit de réfléchir, c'est interdit. Quel est votre rêve d'enfant ?
Oh là là, je ne peux pas répondre à cette question. Je crois... je sais pas, comme tous les enfants, la paix dans le monde, l'amour.
Ouais, c'est bon. Qu'avez-vous envie de dire à la jeunesse ?
J'ai envie de dire à la jeunesse un peu ce que je dis à mes filles. Vivez pleinement votre vie, ne vous laissez pas être agi comme des automates par des puissances extérieures auxquelles vous penseriez qu'il faut répondre.
C'est superbe. Quel est votre plus grand espoir, si vous en avez un ?
Le même que mon rêve d'enfant.
Quelle couleur pourriez-vous associer à votre parcours intellectuel ?
Le blanc.
Ah, c'est beau.
Vous m'avez dit de ne pas réfléchir.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et moi, je n'ai pas le droit de vous réinterroger sur pourquoi le blanc.
Ah,
non plus, je dois jouer le jeu. Est-ce qu'il y a des choses qui restent mystérieuses pour vous ?
Oui. Oui, forcément.
On a le droit de demander quoi ?
Sinon, ça serait... sinon, ça serait tragique. Et puis ça voudrait dire que j'aurais...
On tombe dans les
traumatismes. Avec tout ce que j'ai dit, si on écoute l'émission, on comprendra que oui, tout est... s'il n'y a pas d'énigme, il n'y a pas de pensée.
Tout à fait.
Bon, grand merci alors.
Oui, on a fait les 5 questions,
oui,
c'est pas mal.
C'est génial.
Bon,
chère Nathalie, et chère Isabelle, on rappelle à nos auditrices, à nos auditeurs que le programme du Collège international de philosophie
est en ligne.
Est en ligne sur le site du campus Condorcet et aussi vous trouvez tous les séminaires
sur Facebook
Instagram. Merci chère Nathalie. Et la richesse époustouflante de cette institution non institutionnalisé, toi t'inquiète, le collège.
Et puis on en profite pour dire à nos auditeurs que l'émission que vous venez d'entendre en direct sera évidemment fera l'objet d'un podcast et vous pourrez réécouter Sophie Norman qui est venue nous parler aujourd'hui de la vocation de philosophe puissance de la mise en question. Vous allez sur AligrefM, voilà, et vous regardez les podcasts, vous cherchez, il y a aussi tous nos camarades de toutes les émissions qu'on peut réécouter. N'hésitez pas à faire des dons. Vous savez qu'AligrefM vit des dons de ses auditrices et de ses auditeurs qui désormais sont défiscalisés. Le CA d'Aligre a bien travaillé. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Sophie Norman d'être venue dans nos studios.
Merci
Isabelle Raviolo d'être à nos côtés depuis tant d'années dans Philosophie au présent. Merci beaucoup Michele
Saporiti.
Et on remercie Armand Gury à la technique. Merci Armand.
À la prochaine alors.
À la prochaine. Ciao. Merci aux auditrices, aux auditeurs d'Aligre.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.